problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
On a plusieurs flèches à notre arc, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot, Timothée Mémon.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'After. Permettez-moi avant toute chose de vous souhaiter un très joyeux Noël au nom de toute l'équipe de l'After, Gilbert Bribois en tête et puis plus généralement au nom d'RMC. Vous êtes tranquillement en train de digérer, comme moi, le réveillon, voire les réveillons, en train de vous préparer pour une dure reprise, peut-être aussi un peu dans le dur, ça peut arriver à la période des fêtes. Et bien installez-vous, tout va bien se passer, on est avec vous, on va vous parler de foot, c'est pas un sujet grave, même si c'est quand même le truc le plus important du monde. Et les hommes autour de cette table en sont tous convaincus, à commencer par ce que la MLS nous a offert de plus beau depuis David Beckham, Damien Perinel.
Dis donc, merci beaucoup.
Bonsoir.
Bonsoir et joyeux Noël à tout le monde.
Et puis, vous l'avez entendu, lui, il est ce que l'Irlande et la Corée nous ont offert de mieux depuis Oscar Wilde et Heung Min Son, réunis Jonathan McCarthy. Bonsoir.
Et d'un côté, je suis pas sûr que beaucoup de gens de ces deux pays soient accouplés, quoi.
Non,
un peu rare.
C'est la rareté qui fait toute la différence. Messieurs, est-ce que vous avez été gâtés pour Noël?
Magnifique. Le plus beau de Noël.
Il y a un petit cadeau à ressortir que tu as envie de partager avec nous, Damien?
Pas spécialement. C'est des cadeaux privés.
Jonathan?
Ouais, c'était pas mal. Mais je le garde pour moi.
Je le garde pour toi aussi. Moi, il y a ma belle-sœur qui m'a offert 2-11 mondiales, un de 76, un de 81. Les années phares pour Saint-Etienne. C'était plutôt chouette. Merci Catherine, je sais qu'elle écoute. Voilà, c'est l'After, c'est jusqu'à minuit. Au sommaire, aujourd'hui, dans l'After, eh bien, vous nous appelez au 32-7. On va vous demander quel cadeau vous feriez à chaque club de Ligue 1. Un attaquant pour Saint-Etienne, un gardien pour Nîmes, un coach pour l'OL, un palmarès pour Toulouse. Bref, vous nous appelez pour nous dire ce que vous feriez pour votre club si vous étiez le Père Noël. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag je souhaite pour Noël. Et puis vous nous dites ce que vous souhaitez. C'est sur l'After RMC, sur le Twitter de l'After RMC. On reviendra également sur le cas de l'OL. Juninho, le mercato d'hiver sera-t-il un examen de passage pour lui? On a l'impression que Jean-Michel Aulas met un petit peu la pression. On parlera aussi d'Edinson Cavani. Le joueur pourrait partir. Il a toujours été exemplaire. Est-ce que la gestion de la fin de l'histoire de Cavani est un cas d'école en termes d'image pour le PSG? On fera un gros point mercato avec Aurélien Tiercin. Un tour en première ligue avec le début du Boxing Day dès demain, de très grosses affiches. Et puis Arthur Masuaku, le défenseur de West Ham formé à Valenciennes, sera avec nous. Et puis appelez-nous également pour jouer avec nous en fin d'émission, puisqu'on va jouer avec le quiz de l'After. 21h03, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous étiez le Père Noël pendant quelques instants, vous avez une baguette magique, des lutins et un traîneau, qu'est-ce que vous offririez au club de Ligue 1? Rendez-vous sur le hashtag je souhaite pour Noël, et puis vous nous dites ce que vous souhaitez. On va commencer avec toi, Damien, un club comme ça, et puis on fera un petit peu le tour de tous les clubs de Ligue 1. Qu'est-ce que tu souhaiterais en premier lieu en Ligue 1 et pour qui?
On va commencer fort, tout de suite, à Monaco, peut-être, avec une politique sportive déjà pour ce club. Des gens compétents aux postes les plus importants, parce que là, on... si je vous dis 73, en fait, c'est...
Ils ont deux joueurs.
C'est quoi? C'est pas le département de la Savoie, non, Timothée? Non.
Mais ouais, le
nombre de joueurs sous contrat.
C'est incroyable.
Et quand tu fais surtout, quand tu dénombres les défenseurs, les attaquants, les milieux de terrain, je crois que t'as 11 ou 12 attaquants dans l'effectif aujourd'hui des 28 joueurs. Tu dois avoir.
Et combien de blessés?
4 ou 5 milieux de terrain et 8 ou 9 défenseurs. Enfin, je veux dire, c'est un effectif qui est complètement déséquilibré. Voilà, donc aujourd'hui on dit peut-être un nouveau coach, racheter des joueurs, mais des joueurs, en fait t'en as 73 sous contrat, donc qu'est-ce que tu vas racheter? À la limite, les joueurs qui sont restés, ce sont les joueurs qui ont fait le plus défaut l'année dernière, les défenseurs qui sont encore titulaires cette année. Et là, quand j'entends qu'on veut Marcelino en tant que coach, enfin, mais Marcelino, avec l'état d'esprit que t'as dans et la qualité des joueurs intrinsèques de l'effectif, t'ira nulle part.
Actuellement, Oleg Petrov se fait straquer un petit peu partout parce qu'il vient pas du monde du foot. foot, qui met beaucoup de temps à s'y faire. Il est seul responsable, le fait qu'il n'y ait pas eu de vente au dernier mercato. Est-ce que finalement, puisqu'on encense aussi en comparaison Vassiliev, est-ce qu'il n'est pas responsable avant son départ?
Alors Vassiliev, après, je sais qu'il n'est pas non plus tout clair sur ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est la raison de son pour laquelle il a été viré de son poste. Maintenant, le problème de Petrov, c'est qu'il s'est entouré également. Lui, il ne connaît pas très bien le foot, mais il s'est entouré de personnes qui ne connaissent pas le foot non plus. Et c'est là qu'il y a le problème. Alors après, je sais que Jardim lui a mis la pression au dernier moment du mercato pour recruter. Donc c'est là qu'il y a eu les recrues avec Slimani, qui a un prêt, Ben Yedder, qui est le plus gros transfert de l'été dernier. Mais voilà, il a fallu attendre le dernier moment pour pouvoir donner des joueurs à Jardim. Donc Petrov est forcément responsable aujourd'hui de cette situation. Et Jardim, voyant de toute façon qu'il n'a pas eu les outils qu'il avait demandé, on a l'impression que lui aujourd'hui il est complètement en roue libre et qu'il attend qu'une seule chose, c'est son deuxième chèque.
Bah moi, pour Monaco, je souhaite que Jardim il accepte de partir sans prendre la thune, parce que sinon il serait encore vraiment ridicule. Mais plus globalement, en fait, le projet il est mort-né, dans la mesure où si tu pars sur ça, sur du trading de joueurs, pourquoi pas, hein. Il y a des clubs qui le font. Mais il faut que tu aies un directeur sportif qui soit de très très haut niveau, comme pouvait l'être Campos, qui était capable d'amener des joueurs que l'on ne connaissait pas, comme Bernardo Silva. Alors oui, on va me dire, ouais, je suis le sensionnat portugais, je sais que c'était bon, si tu veux. Mais en général, voilà, pour faire des bons coups. Et quand t'as plus ce directeur sportif-là qui te permet, d'alimenter en qualité et après en manne financière ton équipe, ça sert plus à rien. Donc en fait, plus globalement, je pense que Monaco, c'est un grand club, du football français. C'est un club historique, de notre Ligue 1. C'est un club qui a un beau palmarès, c'est un club qui nous a tous fait vibrer. Et ben, tout simplement, pour Noël, pour les supporters, je demande à ce que il y ait un changement de direction, un changement de projet, et qu'on arrête de faire ce projet de trading qui est un petit peu mercantile, un petit peu vulgaire, et qui colle pas du tout avec l'image classe qu'a l'AS Monaco.
Mais je vais même te dire quelque chose, c'est que moi je suis persuadé d'une chose, et c'est un avis personnel, je pense que même Thierry Henry, quand il est arrivé là-bas et de l'extérieur, il a dû voir que c'était tout beau et que c'était une super opportunité, mais une fois qu'il est miné dedans, il a dû se dire bah mais qu'est-ce que j'ai fait à signer là comme première expérience, parce que aujourd'hui il y a plus de pouvoir, il y a plus de direction, il y a plus rien, et Jardim est revenu en pensant que justement il allait pouvoir régler parce qu'il connaissait la maison, et en fait on s'aperçoit que c'est un échec et le réchauffé n'est jamais bon de toute façon.
Pour terminer avec Monaco, Jonathan, tu as souvent un avis relativement éclairé sur l'utilisation des clubs de foot à des fins non footballistiques. On s'aperçoit que les Russes ont mis de l'argent dans ce club monégasque et qu'aujourd'hui ils renforcent de plus en plus la force justement des Russes à l'intérieur du club, en mettant de plus en plus de Russes au poste clé. À quoi joue le propriétaire avec ce club? Est-ce que c'est un outil pour autre chose?
À la base, on sait très bien pourquoi il y a eu cet investissement à Monaco. On sait que c'est avantageux d'être bien avec le prince. On sait que c'est avantageux sur des aspects financiers. On sait que le propriétaire a eu des gros problèmes avec des démêlés avec la justice par rapport à des affaires relatives à Monaco. Là, je pense qu'il y a un moment, quand il a vu que le prince ne tranchait pas en sa faveur, il a eu une sorte de mise en retrait et de mettre des Russes, en fait, de plus en plus de Russes dans l'organigramme, c'est sa manière de dire je mets des gens de confiance, mais moi j'ai bien compris que je me l'étais fait prendre, qu'on me l'a mise, et puis voilà, c'est tout simplement ça. Mais à la base, qu'on soit bien clair, il a racheté Monaco, c'était pas par amour de l'AS Monaco, il y avait des intérêts très évidents.
Damien, en deux mots, un autre club et un autre cadeau que tu voudrais faire en cette période de Noël?
On va peut-être aller sur Lille, tiens. Moi, j'aimerais bien que Lille, surtout que Christophe Galtier ait des adjoints qui l'aient choisi, qu'il lui soit fidèle, pour une fois. Et par contre, non, le souhait que j'ai pour Lille, c'est de conserver justement cette cellule de recrutement et Luis Campos. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en France, c'est peut-être le club qui a le meilleur système de recrutement, de scouting. Faut savoir qu'à Lille, ce ne sont pas les agents qui appellent, c'est le club qui appelle les agents en fonction.
C'est le système Campos.
Exactement,
hein,
en fonction des joueurs qui les intéressent. Cette démarche, est un peu plus saine justement, et au moins le club a choisi les joueurs qu'il désire.
Bien sûr. Moi, j'espère pour le LOSC qu'il ne soit pas dépouillé en juin, à l'image de l'année dernière où Raphaël Léao partait alors qu'il avait fait juste 4 mois. C'est un peu con, je trouve. Il aurait pu construire quelque chose avec ce club-là. Et puis, j'aimerais bien que Ludo intègre l'organigramme. Je dis Ludo, c'est pas parce que c'est mon pote, hein, c'est pas parce qu'il est avec nous, mais c'est juste que Ludo Bragnac, parce que ce projet, c'est un beau projet, même si j'ai un peu critiqué tout ce qui était trading, mais ça fonctionne. T'as un entraîneur qui a de la personnalité, t'as ce qui se fait de mieux en termes de recruteur, de directeur sportif en la personne de Luis Campos. La seule chose qui manque maintenant pour que ça soit vraiment bien, c'est qu'il y ait quelqu'un qui incarne un petit peu le passé glorieux du LOSC, qui soit dans l'organigramme. Donc voilà, pourquoi pas Ludo.
Appelez-nous au 32-16 pour nous dire ce que vous souhaitez pour votre club. On est avec Arthur, qui a 30 ans, qui est supporter du Stade Rennais. Joyeux Noël, Arthur.
Ah. Allez, joyeux Noël à vous, messieurs.
Salut, Arthur. Merci.
Salut, Arthur.
Comment ça va? Et surtout, qu'est-ce que tu voudrais offrir au Stade Rennais pour cette deuxième partie de saison?
Bah, écoutez, ça va bien déjà.
Là, ouais, c'est clair.
On est plutôt bien, on est à l'abri. Avec un match de moins, on est plutôt bien. Alors, c'est troisième place. Bah, moi, ce que j'aimerais dans cette deuxième partie de saison, alors forcément, comme tout le monde, soit Ligue Europa au minimum, et puis pourquoi pas Ligue des Champions, mais pour parler plus du terrain et de l'extra-sportif, c'est retrouver un Grenier à son niveau, retrouver un Grenier performant, humble et travailleur.
Il est humble et travailleur.
Il est humble et travailleur,
je t'assure.
Comme on l'a connu, mais il est décevant dans son attitude depuis cet été. Je pense qu'il s'attendait à plus de responsabilités suite au départ d'Atem, qu'il n'a pas eu, je pense. Mais aujourd'hui, ça le met en danger, ça met en danger le groupe, ça a mis en danger à un moment donné le groupe au niveau de son attitude. Ça reste un bon garçon, parce que la preuve, quand il a joué l'autre fois, quand il est revenu dans le groupe, il a fait une bonne prestation. Mais j'aimerais vraiment le retrouver à l'époque où il avait signé à Rennes, où il a fait une très bonne saison l'année dernière. C'est un joueur qui a énormément de qualité, il arrive à un âge où normalement on a atteint le summum de sa carrière, où sa technique, son physique est vraiment au top. J'ai peur qu'il passe à côté de tout ça, j'ai peur qu'il loupe un petit peu cette partie de cette carrière qui pourrait lui être préjudiciable, ouais. Et j'aimerais vraiment le voir vraiment au top niveau à Rennes.
Tu sais,
c'est vraiment une belle année pour mettre à profit.
Je m'inquiète pas pour lui, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un d'humble, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un de travailleur. Voilà, ça s'est pas très bien passé sur cette première partie de saison. Faut savoir que cet été, il a quand même refusé des offres de clubs assez huppés. Il me semble le Zénith, d'ailleurs, pour rester à Rennes. C'est un joueur qui est motivé par le projet. Là, effectivement, voilà, on peut pas dire qu'il ait fait six premiers mois de qualité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais très franchement, c'est quelqu'un qui a connu bien pire comme difficulté et qui a toujours réussi à rebondir. Donc, voilà. Pour si j'étais toi, je m'inquiéterais pas.
Sur le Grenier, moi, Arthur, j'aimerais rebondir sur quelque chose. Tu sais, il me semble qu'il a fait une interview octobre, ou un peu après justement, où on lui posait la question, et lui c'était le premier à reconnaître, non, bah, dans une carrière, il y a des moments où on est moins bien, où justement, il n'a pas cherché à foutre le bazar dans le vestiaire, il s'est dit, bah, c'est à moi de retrouver mon niveau, et de rendre service au coach, c'est en accord avec le coach, il me met sur le côté, et voilà, pour lui c'était justifié.
Après, et puis des moments durs, il en a connu, hein. Que ce soit à Lyon, quitter Lyon alors qu'il avait fait toute sa, qu'il avait été formé là-bas, d'aller s'exiler à Guingamp, de faire 6 mois de très bonne qualité, après d'aller à Rennes. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'être confronté à l'adversité. Donc voilà, effectivement, comme il a dit, il y a des hauts, il y a des bas, mais moi je me fais pas de soucis pour lui.
Je suis d'accord avec toi. Il a la tête sur les épaules. C'est un garçon qui est mature, je pense, au niveau professionnel, qui a su à chaque fois être performant pour revenir, en tout cas, de ses blessures. Par contre, quand on entend ses interviews, ne soyons pas naïfs, c'est de la communication pure et dure pour pas mettre en danger le groupe. Tout ça a été réglé en interne. Ça a été très difficile parce qu'on se souvient, on oublie aussi cette grosse engueulade qu'il y a eu avec Bourigeaud lors du coup franc que voulait tirer les deux en Ligue Europa. On oublie aussi parce que Grenier, c'est quelqu'un qui, d'après les tirs, d'après les rumeurs, mais je me passe pas là-dessus, je me base juste sur des on dit, qui a du mal quand même à passer les portes un peu du Stade Rennais. C'est un garçon qui cette année, je pense, a pris un petit peu le boulard après la confiance.
Écoute, je vais te dire un truc. Franchement, j'ai pas raconté de baratin, je le connais un peu. Pas du tout le genre. Franchement, tu peux lui trouver tous les défauts que tu veux, mais en tout cas d'avoir le boulard, c'est quelqu'un qui est vraiment bosseur et c'est pas du tout le genre, je t'assure.
Oui, bah écoute, si toi tu le dis, si tu veux vraiment encore, enfin très proche de lui.
Non, très proche, non, faut pas déconner, mais en tout cas je te dis, pas le genre, tu vois.
Après Arthur.
C'est quand même ce que au sein de Rennes, ce qui est dit et ce qui est des gens très proches aussi, c'est un garçon qui a vraiment mis une ambiance pas très saine dans ce début de saison, qui était pas au beau fixe. Donc, je pense qu'il a fait un travail aussi sur lui-même. C'est là où sa maturité ou son expérience de professionnel, assidu comme tu dis, revient aussi. C'est que bon, il a peut-être fait son mea culpa par rapport à ça.
Arthur.
Il se dit, pourquoi pas, moi je mette en question et puis je mette au service de l'équipe comme il l'avait dit cet été d'ailleurs.
Damien, je trouve ça dommage en fait de réduire aujourd'hui les ambitions de Rennes à Clément Grenier objectivement.
Plus parce que ça fonctionne
voilà.
Bien sans lui.
Faut quand même se rappeler que à Rennes t'as eu 10 matchs sans victoire, t'as eu un creux de 10 matchs sans victoire, même si aujourd'hui ça vous permet d'arriver à la 3ème place à la trêve. Mais au-delà de ça aussi, surtout, il faut un parcours en Europa League qui soit meilleur que ça. Et je sais que c'est une ambition présidentielle où le président Létang a de l'ambition dans ses Coupes d'Europe. Et c'est le premier à dire que normalement, quand t'es joueur professionnel, t'es capable de faire des matchs tous les trois jours, de faire un parcours en Europa League qui soit meilleur que ça. Et donc, pour ça, si tu joues la Coupe d'Europe au classement, il faut la jouer l'année d'après.
Hein. Arthur, pour conclure sur Rennes, d'après ce que je comprends, puisqu'on a aussi parlé du départ de Clément Grenier, toi, tu veux qu'il reste, mais dans d'autres dispositions.
Bien sûr, qu'il adopte vraiment un rôle de leader, je pense qu'il attendait. Je pense qu'on ne va pas se mentir.
Oui, il attendait d'être capitaine, je pense.
Un garçon qui a été dans l'ombre d'Athènes. Et je veux quoi, Rennes? Je veux un leader. Comme à l'image d'André il y a quelques années, les dernières, c'était un peu squeezé parce qu'Athènes, tout le jeu était basé autour de lui. Mais il faut que cette année, en deuxième partie de saison, Grenier devienne ce leader de l'équipe. Moi, c'est ce que je souhaite. C'est un joueur que j'admire sur le terrain.
Par c'est un beau joueur.
Hein. De jeu. Puis football, c'est quelqu'un qui est très bon. Il s'y connaît, il est lucide. Il est capable, sur des coups de pied arrêtés, sur plusieurs phases de jeu, de faire la différence. Il manque un peu de physique, mais si ce n'est que ça, quand il est vraiment au top de sa forme. Mais c'est un joueur qui peut avoir un leadership important dans cette équipe, qui peut avoir un impact tellement bon quand il est en forme, que je souhaite vraiment que ce soit lui qui prenne vraiment contrôle de ce milieu de terrain, de cette équipe rennaise, parce que Da Silva, je l'aime beaucoup, mais pour moi, c'est un patron de la défense, mais c'est pas un patron d'équipe. Ouais. Leader peut l'être. Grenier peut l'être.
Ouais. Merci beaucoup, Arthur.
Ciao, Arthur. Bonne
on
fête,
souhaite encore un joyeux Noël et puis effectivement de bonnes fêtes. Ça continue. À très vite, Arthur.
Merci beaucoup.
Alors messieurs, on va continuer un petit peu notre Tour de France des cadeaux que vous voudriez faire aux différents clubs de Ligue 1. Sur Twitter, Do voudrait un décès, un latéral gauche pour Monaco, on en a parlé. Geoffrey Brock voudrait que Loïc Perrin soit éternel, il n'est pas prêt de le voir partir à la retraite.
C'est vrai qu'il
peut essayer.
C'est vrai, d'un côté, il ne fait pas une très bonne première partie de saison.
Oui, non, mais c'est vrai. Non seulement je trouve qu'il fait une très bonne première partie de saison, et lui-même trouve qu'il ne fait pas une très bonne première partie de saison.
On n'a qu'à faire Saint-Etienne, là.
On peut faire Saint-Etienne, si vous voulez.
À toi l'honneur, quand même.
Saint-Etienne, moi, je voudrais un neuf parce que Berich, je l'aime d'amour, mais ça fonctionne pas et il est prêt à partir. Diony, on oublie. Et ça fait trop longtemps. Charlaby a le potentiel pour devenir un neuf, mais il faut un neuf pour porter Saint-Etienne plutôt que ça, parce que Charlaby doit encore arriver à maturité. Pour Saint-Etienne, messieurs, vous avez noté.
Moi, j'espère que Kadri, pendant les vacances, il va aller à Merano et que Boudbouze, que son frère s'en aille de Saint-Etienne et que ce soit le vrai Boudbouze qui arrive enfin chez les Verts.
Kadri à Merano. Il y a une kurde pour
Ça serait bien. Et aussi, troisième chose, j'aimerais bien que, les jeunes qu'on a vus là, on les connaissait parce qu'ils avaient été très bons l'année dernière en Gambardella, Belkedim, même Youssouf qui était à Bordeaux, Madi Camara et compagnie là, qui continuent leur progression parce que je pense que là, vous avez un sacré réservoir de bons petits joueurs. Franchement. Je pense que Saliba, c'était juste la partie émergée de l'iceberg. Parce que quand je vois ces jeunes-là, je me dis, ça bosse bien quand même.
Le Milan AC rêve de Todibo. S'ils n'arrivent pas à faire Todibo, ils pensent à Fofana.
Fofana, il a été excellent aussi. Hein. Ouais. Non, et d'ailleurs, dédicace au compte Instagram, là, à SSE. Humour actu. Parce que franchement, ils me font mourir de rire.
Ce serait plus une seule voix et concordante entre les deux présidents parce que. On a pu s'apercevoir que déjà il y a eu une perte de temps en début de saison avec la nomination de Ghislain Printemps. Apparemment, les deux présidents n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Une fois de plus, j'ai envie de dire malheureusement, et on a l'impression qu'il y a un gros problème de communication au sein de la tête de Saint-Etienne. Et puis qu'il y a un organigramme qui soit clair et défini, quoi.
Non mais Kadri Merano, c'est pas la priorité.
Il était revenu en forme. Après, il s'est cassé la main et il a eu 5 semaines d'absence. On peut espérer qu'il se soit entretenu. Mais effectivement, le retour de Saint-Etienne et le retour des blessés sera important. Parce prochain match pour Saint-Etienne, c'est en Coupe de France contre Bastia Borgo à Bastia.
À l'avant-saison, on disait putain, Kadri, Boudbouze, on a tout ça de les revoir ensemble, etc. Là, franchement, c'est nul quoi.
C'est un peu dire ce qu'il y a,
les deux sont mauvais. Alors que c'est deux putains de bons joueurs de foot. Donc j'espère qu'en deuxième partie de saison, on va les retrouver. Parce que si on les retrouve, quand on voit les jeunes qui sont quand même dans mon niveau, et si les cadres, donc, parce qu'il ne faut pas juste mettre Kadri et Boudbouze, hein,
Il y a aussi Mvila, je le trouve vraiment très très moyen depuis le début de la saison. On va pas parler de Debuchy aussi parce que là ça serait vraiment tiré sur une ambulance, mais il y a quand même du matos et Saint-Etienne doit faire vraiment mieux. Et je pense que Puel, qu'on a beaucoup on l'a un peu encensé depuis qu'il a repris les verts, quand tu regardes le contenu des matchs, je sais pas ce que t'en penses Tim, mais c'est pas, pour moi c'est pas satisfaisant quoi.
Non, c'est pas satisfaisant parce que la première chose qu'il a fait, c'est de resserrer les lignes, de prendre moins de buts. Ça a plutôt fonctionné. Après, il a pas le groupe qu'il a choisi et vraisemblablement au mercato, l'idée sera de faire partir un ou deux gros salaires pour essayer d'attirer des jeunes à potentiel. Ce qu'il a fait avec Nice, ce qu'il a fait avec Leicester. On va
en tout cas sur Saint-Etienne. Excuse-moi, Timothée. Dernière chose avec Puel. Il a au moins instauré un état d'esprit qui est différent de Ghislain Printemps. Et je trouve qu'au moins, dans la combativité, dans l'abnégation, alors ça suffit pas, hein, mais que tu vois aujourd'hui, c'est quand même plus sympa à regarder.
Soyan voudrait un désenfleur de melon pour Neymar et Mbappé. On y reviendra juste après la pub. A tout de suite dans l'after. On va continuer à parler des cadeaux que vous rêvez de faire au club de Ligue 1. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Timothée Mémon.
21h22, de retour dans l'after. Dans 20 minutes, on va vous poser des questions, vous demander votre avis sur l'Olympique Lyonnais. Olas, met-il la pression à Juninho? Est-ce que le prochain président mercato là, est la dernière chance du Brésilien? Alors moi, je n'appelle président que les gens qui sont effectivement mes présidents, donc le président de RMC, Emmanuel Macron pour les autres, et puis le président de mon club aussi, Jean Piazon.
Voilà, ouais.
Je m'appelle président Piazon.
C'est quel manque de respect envers les Lyonnais, Timothée, ça se voit, c'est flagrant.
Même Roland, je l'appelle c'est pas président.
Jean-Michel, Olas. Même Roland. Son prénom, mince.
Et puis tout à l'heure, on vous parlera de Cavani, peut-être un cas d'école pour l'institution Paris Saint-Germain. On vous expliquera le sens de cette question. À 23h, on parlera du Boxing Day qui arrive très vite. Mais on continue à s'interroger sur ce que vous feriez si vous étiez le Père Noël. Quel cadeau vous feriez à vos clubs de Ligue 1? Cagnois voudrait un 6, un 10 et un 9 pour Nice. Ça fait un peu beaucoup. Dolberg Ounas, messieurs, un 10 et un 9. Est-ce que pour vous, ils peuvent être les hommes providentiels de cette seconde partie de saison, ou est-ce qu'ils vous ont déjà un peu trop déçu? Ounas par l'inconstance, Dolberg parfois par...
Ounas a une blessure hein, qui l'a coupé quand même. Il a pas été mauvais. Après, Dolberg, on a l'impression que c'est un joueur qui est... On voit, hein, ça sent le football, c'est plein de qualités, mais que ça fit pas avec la manière dont joue Nice, avec ce qu'il y a autour de lui. Et c'est pas vraiment du tout une question de qualité de joueur qui est remise en question.
Le système offensif.
C'est le système, ouais, en fait, qui est pas fait pour lui.
Quand on recrute un mec comme Dolberg, est-ce qu'il faut pas aussi adapter un peu son jeu?
Moi, je vais élargir la question en disant ce que je souhaite pour Nice, c'est que l'arnaque Patrick Evra parte de l'OGC Nice. Je pense que c'est l'entraîneur le plus surcoté de l'histoire de la Ligue 1 des 5 dernières années. Très franchement, alors c'est bien, il est champion du monde, il a son nom, il a du charisme, mais quand on voit Nice jouer, quand on voit les prestations qui sont alignées relativement à la qualité des joueurs qu'il a à sa disposition, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Alors qu'il le garde parce que c'est un champion du monde pour l'image, c'est très bien, mais il n'a rien à faire à entraîner une équipe de Ligue 1.
Après, il a quand même, il a mis un coup de pression juste avant la trêve. Tous ces joueurs, justement,
il a profité. Mieux jouer son équipe d'abord.
Il a profité de la victoire pour que certains joueurs se remettent en question. Mais c'est surtout, qu'il y a un effectif un peu plus.
Tu prends un défenseur central. Je veux bien que.
Tu mets Malangsar. Malangsar, il te fait un match sur 3 ou 4 de bien.
Oui, mais il est même pas dans l'axe. Il le met sur un côté. À la rigueur, que tu me dises, ok, il leur manque un défenseur central, ça, il y a pas de souci, parce que Dante, il est à la ramasse. Et Malangsar, moi, je lui fais pas extrêmement confiance. Je pense que RL, c'est un très bon joueur, mais il lui faut quelqu'un de qualité. Mais tu regardes l'effectif, très franchement, à chaque fois qu'on analyse les matchs de Nice, on se rend compte qu'au milieu de terrain, ça a ni queue ni tête, ça manque d'équilibre.
Quand est-ce qu'il a eu son mercato? Il a eu son mercato la dernière semaine, il me semble, au mois d'août.
Non, oui, il a eu très tard à cause de la
Dolberg. Sinon, il y a eu personne. Il y a eu personne. Il a eu des départs, mais il a eu personne.
Il a aucun doute et ça a débloqué les achats.
Il a quand même du matos. Hein.
Après, il peut mieux faire, c'est sûr. Mais on peut pas tout lui mettre sur le dos. Il doit mieux faire. Enfin, c'est mon avis. Après, par contre, j'ai une info comme quoi il est sur en pole position pour entraîner l'Inter Miami, le club de Beckham.
Et bien, Kylian, ça sera son. Enfin, bon, je. Pas envie de dire ça parce que ça sera de son niveau la MLS, mais là pour entraîner une équipe de Ligue 1 qui est amenée à jouer les 5 premières places vu les investissements qui ont été consentis et qui vont être consentis, je suis désolé, Nice doit ambitionner d'avoir un vrai entraîneur et pas juste un nom.
Mathieu a fait le 32-16 pour nous parler du club qui serait, selon Gilbert Bribois, le film érotique de la première division, Strasbourg. Salut Mathieu, joyeux Noël.
Salut les gars, joyeux fête à tous, joyeux Noël surtout les
salut,
gars.
Salut,
salut. Salut.
Alors Mathieu, qu'est-ce que tu voudrais commander au Père Noël avec un petit peu de retard pour le Racing?
Alors ça peut être vaste, hein. Je vais développer un petit peu. Moi j'aimerais que mon club aille chercher rapidement ses 40 ou ses 43 points, qui est la barrière psychologique pour le maintien. Même si je pense qu'au vu des résultats des derniers, on pourra l'obtenir avec un petit peu moins de points cette année comme l'année dernière. Mais bon.
36, 37, ça peut passer.
Je pense. Allez, je dirais 40, on est large. 40 rapidement, on est tranquille. Et après, ce que je souhaiterais, c'est que mon club joue à fond une qualification directe en Ligue Europa. Ah, ça nous permettrait
de
débloquer un budget un petit peu plus conséquent pour l'année prochaine, de renforcer encore cette équipe et peut-être un peu donner un peu d'espoir et de, comment dire, une meilleure image du football français en Europe que cette dernière année là qui vient de s'écouler où c'est honteux et catastrophique.
Ouais, il y avait dans la remarque de Jonathan, il y avait une question, Mathieu. C'est une terrible désillusion l'élimination contre Francfort à la fin de l'été.
Pour moi. Non. Souviens-toi le début de saison. Après cette phase de qualification en Ligue Europa, elle est catastrophique. On est même dernier il y a un mois et demi ou deux mois. Je pense que si cette année on joue la Coupe d'Europe comme Rennes et Saint-Etienne, on n'est pas armé. On passe pas la poule. Et en plus, on est comme Toulouse et Nîmes à l'heure actuelle en championnat. Je pense qu'on n'était pas prêt cette année. Si on y était allé, on aurait joué le coup à fond. Tu tombes sur Francfort. Tu fais un bon match à l'aller. Tu te fais sortir au retour. Il n'y avait pas photo. C'était peut-être un petit peu trop tôt cette année. On a eu notre millier par la Coupe de la Ligue qui, pareil, n'était pas prévu, mais bon, on l'a joué.
C'est un trophée, tu le prends,
Voilà, tu prends le trophée, t'as la qualification derrière. Moi, je pense qu'on a donné une meilleure image en qualification en Coupe d'Europe que tous les matchs que Rennes et Saint-Etienne ont joué cette année. Et ça me fait de la peine parce que moi, je suis pas supporteriste à outrance. J'aime bien les autres clubs français en Coupe d'Europe.
Ah non,
et je trouve ça tellement désolant.
Mais enfin, justement,
Mathieu, Mathieu, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis. En fait, c'est un peu plus d'ambition dans le jeu de Strasbourg. Parce qu'en fait, tu regardes les matchs de Strasbourg, tu te fais chier, tout simplement. Ouais. Moi, je trouve que t'as du mal à être captivé par cette équipe. Ça
manque. Avec ses moyens aussi. Hein.
Bien sûr, mais Reims joue avec ses moyens aussi. Et Reims, tu peux te proposer un jeu attractif.
En fait, la différence, c'est que Strasbourg, pourquoi on les aimait bien l'année dernière, c'est parce que ça allait à 1000 à l'heure, quoi. Ils étaient capables de mettre une intensité
dans la vague. Et puis Strasbourg, l'année dernière, nous a fait kiffer par les ambiances aussi.
Oui, non, mais alors, il y a deux choses. Il y a l'ambiance.
Ça joue beaucoup, parce qu'à chaque fois qu'on allait à Strasbourg, on se régalait. Ouais. Nos commentateurs, c'était le pied, et même à la télé, c'était top.
Alors, je suis d'accord, il y a l'ambiance, mais il y a aussi le jeu, qui était, même si c'était un petit peu rudimentaire, c'est une équipe qui mettait une intensité au-dessus de la moyenne en Ligue 1. Et là, il faut dire ce qui est, hein, et Mathieu l'a très bien dit, c'est que d'avoir disputé cette phase de qualification pour l'Europa League, ça a foiré toute la préparation physique des Strasbourgeois qui sont tous sur les rotules. Quand je vois Strasbourg jouer, je vois une équipe qui n'a plus de gaz, même si c'est vrai que ça va mieux, mais ça fait voilà. Et moi, je pense qu'on va retrouver le vrai Strasbourg en seconde partie de saison. Donc, ce qu'il faut demander au Papa Noël, c'est que tout le monde se repose bien. Exactement, moi, ce que je te dis, ce qu'il faut demander au Père Noël, c'est que tous les joueurs se reposent bien. Et je pense qu'en seconde partie de saison, ça fait depuis le début de la saison qu'on le dit avec Ludo quand on les voit le week-end, c'est qu'on verra le vrai Strasbourg à partir de janvier.
Aujourd'hui, t'es à Strasbourg. T'as peur de quoi en fait? Ouais, d'accord, mais dans l'ambition de ton coach. Aujourd'hui, regarde, t'as Toulouse qui a vraiment un pied en Ligue 2. T'as Nîmes, c'est pareil. Ça va être super compliqué pour eux.
Non, les gars, je suis pas d'accord.
Mais de quoi t'as peur?
De quoi t'as peur?
Joue. Fais-toi plaisir, va de l'avant.
La pire série de la Ligue 1.
Je sais, c'est vous.
La pire désillusion, et je sais que je l'ai vécu, j'en ai pleuré.
Je sais.
On finit cinquième une année, première partie de classement, cinquième ou sixième, début de saison exceptionnel. On a Jean-Marc Furlan qui est entraîneur de l'équipe.
Dis pas de mal de Jean-Marc, s'il te plaît.
Et on finit avec 11 défaites de suite, et on finit par tomber en Ligue 2.
Il y avait Pierre Ducrot d'ailleurs.
C'était le début des problèmes, et derrière, on a recommencé, on était plus bas que CFA. Et ça, on veut plus vivre.
Ouais.
Nous, ce qu'on veut, c'est voir notre club s'installer dans la Ligue 1. Devenir un club du football français référence. On sera toujours derrière les Marseilles, des Lyon et compagnie. Mais on veut devenir un bon club français et faire honneur au football français quand on aura la chance d'être.
Eh ben, on te le souhaite, mon pote. Hein.
C'est tout ce qu'on te souhaite,
et
Mathieu.
Les gars, moi, ce que je veux pour Noël, c'est un t-shirt de l'after.
Eh ben, on va trouver ça. On va trouver ça sans problème, Mathieu.
Il y a Jonathan, il va donner le sien. C'est un t-shirt de l'after, ton t-shirt,
Jonathan.
Ouais,
mais Jonathan,
c'est du, je crois que c'est du 15 ans.
Du 15 ans. Écoute, désolé d'avoir des bras de taille d'homme et d'avoir les t-shirts en taille M me servent un petit peu, Timothée. Je sais que c'est
vrai
de t'arriver.
C'est pas un problème pour moi.
Par contre, au niveau du bide,
ouais, ça commence à venir. Merci beaucoup, Mathieu. À très vite, Mathieu. Avec Strasbourg. Je continue à vous lire un peu ce qu'on nous propose sur Twitter comme cadeau souhaité pour les clubs de Ligue 1. On a par exemple, eh bien, Bisou Biscotto. Qui, ouais. Tiens, qui veut des arbitres des vrais. Ouais. On a Mr Clean qui veut 25 litres de lubrifiant pour le TFC.
Ouais.
Messieurs, plus sérieusement sur Toulouse, qu'est-ce...
Ah bah c'est facile. Qu'on coupe le wifi et la 4G pour au téléphone des joueurs pour qu'ils évitent de regarder Real Barça sur le banc quoi.
De Séville.
Non, très franchement, ce qu'on leur souhaite, c'est qu'ils aient un président qui s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans son club, tout simplement.
Damien, pour le TFC,
De la fierté, surtout, pour ces joueurs. Parce que aujourd'hui, l'image qui donne sur le terrain n'est pas représentative des, ouais, je trouve, des joueurs de Ligue 1. Et il faut qu'ils élèvent leur niveau.
Ils sont en Ligue 1, Toulouse ?
Ils sont en Ligue 1. Et alors, moi, j'ai pas spécialement d'avis, mais enfin, disons que j'ai pas mal de potes qui sont supporters de Toulouse. Et le vœu qui revient régulièrement, c'est une descente. Hein. C'est-à-dire que c'est terrible, les supporters veulent une descente pour faire un grand coup de balai et pouvoir reconstruire un nouveau projet
tous les
autour de Toulouse. Mmh. Messieurs, un autre club comme ça au hasard, je vous écoute.
Nantes que Gourcuff et Valdemarquita là, ils partent en vacances ensemble pour que ça continue de bien se passer, parce que j'ai l'impression que là on est sur quelque chose à Nantes, hein, avec Gourcuff. Ouais. Donc si les deux continuent de bien s'entendre, on peut éventuellement, parce qu'on sait que Gourcuff il arrive dans un petit peu à la va-vite en début de saison. Si les deux s'entendent bien, on peut s'attendre à un mercato qui soit confié à Christian Gourcuff. Et quand on voit comment Nantes joue, alors c'est pas toujours du football champagne, mais on sent des intentions de jeu qui sont quand même somme toute intéressantes. On sent que les joueurs, il y a des postes qui gagneraient à être renforcés en qualité. S'il y a les 2-3 renforts qu'il faut, je pense que Nantes peut jouer le top 5.
Tu parles de renforts. Yo-Yo sur Twitter souhaite un attaquant, un avant-centre. Est-ce que Khalifa Koulibaly a grillé ses jokers?
Non, c'est dur. Il n'est pas si mauvais que ça. Le problème, c'est qu'il faut qu'il travaille devant le but. Parce qu'il est intéressant.
Justement, ça va avec l'ambition que j'ai pour Nantes. C'est qu'il y ait une victoire par 2 buts d'écart une fois. Ce serait bien quand même, parce qu'il gagne que des 1-0. Et alors au moins sont solides défensivement.
Mais c'est pas si dégueu dans le jeu. Hein.
Non, mais justement, mais au moins qu'il soit bon dans la surface adverse et qu'il concrétise.
Alors on transforme que Koulibaly, il est gagné, je sais pas moi, pour Noël, 10 séances de spécifique avec Inzaghi ou avec un numéro 9 de légende. C'est un bon joueur, je pense. Après, ça peut vraiment
Koulibaly,
devenir un bon
mais
joueur.
Tu peux lui mettre quelqu'un à côté justement dans un 4-4-2 et voilà.
Il y a le petit Benavente là qu'on a un petit peu vu qui était intéressant. Il a eu des pépins physiques le temps qu'il s'adapte. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui tient quelque chose des Nantais là.
Benjamin est supporter lensois. On parlait plutôt des clubs de Ligue 1. On va élargir au club de Ligue 2. Benjamin, salut, joyeux Noël à toi.
Bonjour l'after. Joyeux Noël à vous en tout cas.
Salut Benjamin.
Salutations aux supporters lensois et au nord de la France. Alors, qu'est-ce que tu souhaites pour le Racing Club de Lens pour cette fin de saison?
C'est facile.
Bon, facilement. Donc le titre, forcément, ça c'est ce qu'on veut. On l'a raté tous l'année dernière. Et comme j'ai dit tout à l'heure au standard, quand on voit le match contre Ajaccio, on gagne 2-1 alors qu'on perdait 1-0. Contre Niort, où on gagne, où on finit à 10. Ça, par exemple, c'est des matchs qu'on aurait perdu l'année dernière. Quand on voit l'effectif, il manque un attaquant pivot, un mec physique. Parce qu'on a beaucoup d'attaquants similaires, des milieux offensifs, attaquants, ailiers. Mais en attaquant qui mette la tête, vous ne mettrez pas les pieds. Parce qu'on n'a qu'un seul attaquant, pour l'instant, c'est le jeune Simon Banza. Je pense que là, si on ajoute un attaquant dans le même profil, ça peut permettre de gagner des matchs.
Tu penses que ça peut le faire cette saison tout de même? J'entends que tu souhaites le titre pour Lens. Est-ce que tu te contenterais d'une montée?
Même la deuxième place, c'est bien déjà.
Déjà, oui. Effectivement, la montée, ça serait déjà extraordinaire. C'est quand on voit qu'il y a quand même 30 000 personnes
à chaque match.
30 000 personnes.
Après, Benjamin, en termes de jeu, ce que Lens dégage, c'est que tu as beaucoup de puissance et d'individualité, mais que ça manque de liant dans l'ensemble.
Je sais que, je suis peut-être un peu dur,
comparé à Lorient, par exemple.
Voilà, mais Lorient, alors on va en venir. Lorient, ils ont un vrai entraîneur. Montagnier, je suis désolé, l'année dernière, si tu montes pas, c'est pour sa pomme. Il y a eu beaucoup de choix qui étaient un peu curieux. Là, on le découvre un petit peu cette saison parce que il joue en Ligue 1. Je pense à Bellegarde qui était chez vous l'année dernière. Il y a des moments, il le faisait jouer ailier, quoi, tu vois. L'ambition dans le jeu, c'est quoi?
Cette année, il a raison,
Damien. C'est beaucoup plus puissant,
c'était compliqué. Il y a eu un début de saison compliqué.
Mais dans le jeu, c'est pas encore ça.
Maintenant, avec Leka, Cahuzac, Gillet, c'est les patrons du vestiaire, c'est les patrons sur le terrain. Et quand on voit qu'en début de saison, c'était compliqué. Et depuis que Cahuzac à la fois, il joue.
Bon, c'est un bon joueur, Cahuzac. Hein.
Cahuzac, il va faire la faute intelligente. Il va aller voir l'arbitre.
Et il est techniquement, moi, je le trouve intéressant. Ça, on a toujours eu tendance à le faire passer pour un boucher, mais pour moi, c'est un très bon joueur.
Ils peuvent apporter un peu de sang-froid parce que Lens a souvent lâché au dernier moment dans la montée, là, quand ça monte.
Ouais, mais regarde, l'année dernière, justement, t'as un gardien d'expérience qui doit garder son sang-froid et il pète un plomb. Et
franchement, vu l'effectif que Lens avait l'année dernière, ne pas monter directement sans passer par les barrages, c'était quand même un petit peu une faute, quoi.
C'est pour ça que je vous dis ça, c'est que les dernières, des matchs comme contre Ajaccio, des matchs contre Niort, c'est pas des matchs qu'on aurait gagné.
Mais le problème, moi, je te dis, le problème que j'ai, c'est que Damien a tout dit, c'est une équipe qui est très physique, qui a des qualités, enfin, qui a du talent individuel, mais tactiquement, je suis toujours pas convaincu. Alors, est-ce que ça suffira pour monter cette saison? Je pense, mais attention après, hein. Attention à
Il y a le mercato qui va être important.
Le mercato, oui. T'as des bons joueurs quand même, tu vois. Mais je pense que tactiquement, l'équipe, c'est encore un peu faible.
En tout cas, c'est la bonne année pour monter avec les droits TV qui tomberont les années d'après.
Effectivement, Benjamin, en tout cas, ça fait plaisir parce que ça semble être parmi les souhaits qu'on a eu jusqu'à présent un des plus probables à exaucer.
Oui, et on veut tous que Lens monte.
Et on a tous envie, effectivement, que Lens soit en Ligue 1.
Et quand est-ce que l'Aster va venir à Lens? Une spéciale
danse
à l'after.
Eh ben, dès que Gilbert Bribois est rentré de vacances, on lui en parle.
Alors, tu sais que l'after est venu à Boulogne-sur-Mer, déjà.
J'étais à Lille quand ils sont venus cette année. Bon, j'avais pas mon maillot de Lens, que j'ai pas voulu me faire chambrer et me faire frapper, mais j'étais à Lille.
C'est bon enfant, t'inquiète.
Tu ne seras pas frappé.
Je suis pas si sûr.
Merci beaucoup, Benjamin, en tout cas, d'avoir été avec nous. Joyeux Noël, bonne fois. Mais si on continue un rapide tour d'horizon, on va passer à l'OM, on n'en a pas encore parlé.
Marseille, plusieurs choses. Que Dimitri Payet, justement, il mange pas trop pendant les fêtes. Parce que quand il est dans cette forme-là, c'est un joueur de classe internationale. Alors je sais que les gens vont dire, c'est parce que t'es pour l'OM. Non, quand il est comme ça, quand il est à ce niveau-là, pour moi, c'est un joueur de niveau Ligue des Champions. Et il porte l'Olympique de Marseille. On a bien vu la différence entre l'OM sans Payet, avec sa suspension après le match contre Montpellier, et l'OM avec Payet. Ensuite, deuxièmement, bon, même si là, on l'entend pas, tant mieux, mais que l'OM est un vrai président et pas le clown qui occupe ce poste depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Et surtout, qu'est-ce qu'on en veut? C'est de la thune. Là, t'es en position d'enfin accomplir l'objectif de te qualifier en Ligue des Champions. Il faut surtout pas terminer troisième, même si peut-être que la troisième place est qualificative directement. Non. Ça te met, admettons que ce soit pas le cas, ça te foire ton intersaison et il faut finir deuxième. C'est mieux pour préparer ta saison, mais il faut de la thune parce que là, tu fais une ou deux retouches à ton équipe et je pense surtout au poste de latéraux. Et ben t'es bien, hein. T'es très bien.
Un chèque à papy.
Ah, faut que ma courte y mette un
petit
peu la main au portefeuille. Hein.
Un chèque à papy.
Ah ouais, ma courte Papa Noël la donne un peu à l'île le pognon, achète un latéral gauche.
On termine avec Arthur qui nous a appelé au 32-16. Ça vous fait réagir en tout cas ce sujet, les cadeaux que vous voudriez faire au club de Ligue 1. Arthur, salut, t'as 18 ans, joyeux Noël.
Salut Arthur.
Mais merci beaucoup.
Tu peux boire en bois, bravo mon pote.
Ouais, mais j'ai eu 19 il n'y a pas longtemps.
Ça fait un an que ça va. Avec modération, bien sûr. Qu'est-ce que tu souhaites, si j'ai bien compris, c'est pas forcément pour ton club. Qu'est-ce que tu souhaites? Il est pour le Paris Saint-Germain.
Ah.
Désolé, Jonathan, on va parler quand même.
Je te pardonne, t'inquiète Arthur.
Alors moi, ce que je souhaite, c'est beaucoup pas directement pour le PSG, c'est pour tous les clubs de Ligue 1 et puis même pour tous les clubs, tous les gros clubs concernés, c'est la suppression de la VAR.
Ah oui, bah oui.
C'est depuis plus d'un an, ça fait 2 ans qu'on a la VAR en Ligue 1, c'est devenu insupportable. Toutes les actions sont susceptibles d'être vues au ralenti. Chaque but, sur la plupart des buts, on a 1 ou 2 minutes, on ne sait pas si finalement il y a but. Plus que la justice des erreurs d'arbitrage, c'est l'émotion du sport que la VAR est en train de tuer dans tous les matchs qu'on regarde.
Eh ben, tu sais quoi, Arthur ? On est d'accord avec toi, mais bon courage. Mais c'est un vieux pieux, malheureusement. C'est mort.
Effectivement.
Jamais en arrière.
Dans l'engrenage. C'est le moment de le demander, effectivement. Arthur, c'est pour ça que j'ai voulu te prendre, parce qu'on est plutôt nombreux à être d'accord. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'était pas aussi nombreux à être d'accord avec ça avant l'instauration de la VAR, mais elle a vraiment prouvé ses limites.
J'ai voulu y croire, mais ça m'a très vite dépassé. C'est insupportable. Absolument.
Puis c'est surtout l'utilisation qui en est faite aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que il n'y a même plus la décision humaine de l'arbitre sur le terrain, c'est toujours la vidéo qui prend le dessus.
C'est la béquille.
Et c'est ça, le souci est là.
Merci beaucoup.
Et puis, la justice n'a pas du tout été rétablie. avec l'instauration de la VAR, ce qui était prévu.
De toute manière, ça ne règle rien, effectivement. Merci beaucoup, Arthur. Dis-moi.
Est-ce que je peux vous demander un t-shirt?
On va en trouver un sans aucun problème. Après le t-shirt de Jonathan, tu auras le t-shirt de Damien, cette fois.
On l'a reçu au PSG, d'ailleurs.
Un t-shirt de Noël. Très rapidement, messieurs, qu'est-ce que tu veux en PSG en un mot?
Je sais pas, on leur souhaite quoi? Moi, je leur souhaite de passer l'écart.
De passer l'écart?
Non, de conserver l'état d'esprit et que les deux stars courent comme elles courent depuis un mois. Défendre.
On parlait tout à l'heure du désenfleur de melon de Neymar et Mbappé. C'est vrai que ça ferait pas de mal. Voilà, c'était pour les cadeaux. Le dernier, c'était Ilias Tapchouche qui sur Twitter voulait limoger Garcia et tout son staff.
Il a fini là.
Résultat, on en reparlera si tu veux dans les affaires qui viennent demain et après-demain. On doit passer à l'Olympique Lyonnais. La transition était faite par le tweet d'Ilias Tapchouche. Olas met-il la pression à Juninho? Ce mercato est-il la dernière chance du Brésilien?
Petit truc. Vite fait. Moi, je souhaite juste que Dalloglio arrive à ressusciter Gaëtan Charbonnier, parce que je pense que ça peut être vraiment pas mal en seconde partie de saison. Et pour Amiens, que Jean-Marc de la Maison du Whisky devienne l'ambassadeur du club. Et surtout Kelsner, même si les résultats ne suivent pas encore, ne change surtout pas sa philosophie de jeu, parce que c'est toujours un régal de les voir jouer.
Et moi, j'aimerais bien qu'Olivier Dalloglio ait un jour un club du top 10. Voilà, on revient dans un instant pour parler de l'Olympique Lyonnais. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, Timothée
Mémon. 21h44, de retour dans l'After. Dans quelques instants, on va vous parler du Paris Saint-Germain. On va vous parler de la Première Ligue et du Boxing Day qui nous fait tous saliver, notamment avec un énorme match demain entre Liverpool et son actuel dauphin Leicester. Il y aura le quiz de l'After à la fin de cette émission. Mais avant cela, on va vous parler tout de même de l'Olympique Lyonnais. Hier, Jean-Michel Aulas a accordé une interview à OLTV dans laquelle il explique que l'OL n'aura pas le droit à l'erreur sur ce mercato hivernal. Juninho est arrivé l'été dernier avec un entraîneur dans la poche. L'entraîneur Silvinho, le susnommé, a été remercié. Depuis, il y a des hauts et des bas du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y a tout de même une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions à mettre à l'actif et de Silvinho et de Rudy Garcia. Messieurs, est-ce que Juninho joue un petit peu, peut-être pas sa tête, mais sa crédibilité sur ce mercato de janvier où on rappelle, avec les blessures longue durée de Depay et de Reine Adélaïde, il va falloir prendre des joueurs. On a parlé d'un joueur par ligne. Est-ce qu'il joue sa crédibilité?
Crédibilité, je ne pense pas. Mais en tout cas, ce qu'il joue, c'est l'étendue de son pouvoir à venir. Parce que chasser le naturel, il revient au galop. Hein. On avait quitté Aulas, Jean-Michel Aulas, en début de mercato d'été dernier, en disant que voilà, bravo, Juninho arrive, c'est lui qui va décider de tout. Moi, je suis content, je me mets en retrait. Il y a eu les deux premiers matchs de la saison qui ont été un début en fanfare, avec notamment la victoire contre Angers, la rousse qu'ils leur mettent, où il disait qu'il était super heureux, qu'enfin il allait pouvoir se reposer, que c'était Juni maintenant le patron. Mais voilà, première tempête. On a vu ce qui s'est passé avec Silvinho et Aulas, Jean-Michel Aulas reprend les devants. Donc je pense que là, si Juninho se plante sur ce mercato-là, je pense que son pouvoir décisionnel risque de se réduire comme un pot de chagrin pour le mercato d'été, et qu'on va revenir à cette révolution en demi-molle que l'on craignait du côté de Lyon.
Le micro.
Pardon. Je pense que Juninho a quand même bon dos sur tous les mots actuels de l'Olympique Lyonnais, parce que sur le dernier mercato, alors ok, il a choisi le coach, mais sur le dernier mercato, c'est pas lui qui a fait le mercato dans sa totalité. Il y a eu Anderson, c'est plus du Florian Maurice. Youssouf Koné, c'est plus Florian Maurice quand même. Alors la décision a été acceptée, c'était une décision collégiale, ok. Mais ces noms proposés ont d'abord été par Florian Maurice.
Jean-Lucas
et Thiago Mendes. Ouais. C'est lui vraiment
les deux. Enfin, Jean-Lucas, un échec pour le moment. Thiago Mendes en demi.
Jean-Lucas, je ne comprends pas, parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu, il n'était pas mauvais.
Je dis pas que c'est un mauvais joueur. Je dis que pour l'instant, l'expérience à l'OL est un échec.
On l'a vu, parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu jouer, il était bon.
En tout cas, ce qu'on peut dire sur Juninho, c'est qu'à chaque fois qu'il fait une sortie médiatique, comme c'est notamment celle après le match de Saint-Pétersbourg en Champions League, ça a été le premier à mettre la pression à mettre la pression aux joueurs et à dire que ce qu'il a vu sur le terrain ne correspond pas du tout aux valeurs lyonnaises que lui a connues lorsqu'il était joueur. Si on reprend une interview d'Aulas d'il y a un an, en juillet 2018 justement, il voulait refaire venir un ancien en tant que directeur sportif qui pouvait insuffler l'état d'esprit et le mental de gagneur qu'il pouvait y avoir à l'OL à cette époque-là. C'est Juninho. Aujourd'hui, c'est lui qui analyse le mieux les matchs de l'OL au sein du club. C'est Juninho. C'est lui qui est le plus franc sur tout. Donc,
au lieu, aussi, on analyse là, bien les matchs. C'est-à-dire que compétence, on prenait un club, tu vois.
T'as eu Juninho. Il vient d'avoir le permis de conduire. Tu lui as donné une Porsche déjà. Donc peut-être que l'erreur est là.
C'est exactement la question que j'allais te poser. T'as été joueur, Damien. Moi, avant d'être journaliste, j'ai fait des études pour l'être. T'as été joueur. Si on t'avait proposé un poste de directeur sportif, qui est quand même un autre métier qu'être le numéro 8 et le tireur de coup franc de l'OL, est-ce que tu l'aurais accepté? Est-ce que tu serais passé par la case études?
Alors, il est passé apparemment. Il y a eu une transition. Apparemment, il est passé par la case études justement entre les deux.
Après les études, mais tu fais tes armes.
Justement,
dans un club moindre.
À la limite, le principal responsable de la situation actuelle, c'est Jean-Michel Aulas. C'est lui qui a donné les clés de la Porsche.
Après, en revanche, il y a des précédents. Regarde par exemple Nedved à la Juve, c'est une réussite, tu vois, par exemple.
Ouais, mais peut-être parce que Nedved, c'était une réussite, mais peut-être qu'il a été encadré, qu'il a été chapeauté aussi au début.
Oui, oui.
Alors que là, on lui a laissé vraiment, débrouille-toi tout seul, et puis moi, je prends du recul, et en plus, ça se passe bien au début, donc je vais rien te dire. Et là, aujourd'hui, hop, il resserre la vis au maximum.
Le problème, c'est que, et c'est difficile, et j'ai pas la réponse, c'est de savoir si c'est, première option, quand tu fais la révolution comme ça, que tu décides de tout changer, que tu mets Juninho directeur sportif, que tu lui donnes les pouvoirs sur le plan de les sportifs de l'équipe première, est-ce que t'aurais pas dû faire un ménage plus complet dans ton groupe? Est-ce que ton groupe était pas gangréné à la base en termes d'état d'esprit? Est-ce qu'il aurait pas fallu changer 80 à 90% de ton vestiaire? Et la deuxième option, et ça me semble être aussi une possibilité, c'est que c'est totalement de la faute de Juninho dans la mesure où c'est lui qui a pris un incompétent comme entraîneur. Je ne dis pas qu'il ne deviendra jamais un très bon entraîneur, mais il n'avait aucune expérience de diriger un club qui est amené à être un club de niveau européen en la personne de Silvinho. Et donc le péché originel, c'est celui de Juninho. Donc oui, les responsabilités, c'est pour sa pomme quand même. Donc en fait, il y a ces deux options, ces deux analyses, et je ne sais pas laquelle est la bonne.
Jean nous a appelé au 32-16. Jean, pour nous parler de l'OL, quel est ton avis sur cette équipe de l'OL et surtout sur la situation de Juninho qui semble un petit peu précaire maintenant?
Bonjour tout le monde d'abord.
Salut Jean.
Ouais, en fait, je ne vais pas appeler moi pour parler de la situation de l'OL parce que je ne vous cache pas que je ne suis pas un supporter fervent de l'OL.
Ah merde, un observateur peut-être.
Par contre. Je leur fais le cadeau. En fait, je pense que Jonathan connaît le joueur dont je vais parler. Plus que eux cherchaient un joueur par ligne, en fait, si j'ai bien compris.
Ouais.
Et au milieu de terrain, moi, je voudrais leur conseiller de prendre Olivier Ncham, un joueur qui joue au Celtic Glasgow. C'est un René Adélaïde beaucoup plus fort pour moi.
Plus axial.
Il a joué avec les espoirs. Il a mis Aouar sur le banc.
Il est plus axial, hein, quand même. Hein.
Il est
plus axial.
Ouais, mais sauf qu'il c'est un box-to-box. Il peut jouer à plusieurs postes. Il est formé. Enfin, moi, je suis de son entourage, donc je sais de quoi je parle. Il est formé à Manchester, au Havre d'abord. Ensuite, il va à Manchester City. Et sous Manchester City, il est avec Vieira. Et Vieira le fait jouer sur un côté devant. Donc, en fait, il peut jouer à plusieurs postes. C'est un gars polyvalent. Il a 23 ans. Il peut très bien rentrer dans le cadre d'un projet comme celui de l'OL. Et franchement, au milieu de terrain, si la cellule de recrutement de Lyon travaillait bien, elle pourrait recruter justement un potentiel international français en la personne d'Olivier Ncham. Donc, c'est ce que je voulais dire.
Il a un potentiel qui est très intéressant. Il est très, très bon au Celtic. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est vrai que ça pourrait être une très, très bonne recrue pour l'OL. Il n'y a pas de souci là-dessus, mon pote.
Merci beaucoup, Jean, d'être venu nous parler d'Olivier Ncham. On te souhaite un joyeux Noël. Effectivement, pourquoi pas, ça peut être une solution. Il parlait de son rapport avec Patrick Vieira. Peut-être que Patrick Vieira saura aussi le faire venir, pourquoi pas, à Nice. C'est une option.
À mon avis, c'est cher.
Pour ce joueur. Pour revenir à Juninho, effectivement, je pense que
au moins 25 millions,
quasiment titulaire indiscutable au Celtic, ce sera forcément assez cher. Pour revenir au cas de Juninho, est-ce que vous imaginez, quand on sait ce que représente Juninho à l'OL, il a été pris aussi pour l'image qu'il a, qu'il puisse servir de fusil dans les mois qui viennent?
Mais non, alors ça c'est impossible, parce que ça, Jean-Michel Aulas, qui est quand même un politicien avec un petit P, qui maîtrise l'art de la stratégie et l'art de la guerre, si j'ose dire, à la perfection, jamais il ne fera sauter Juninho. En revanche, ce qui est évident, c'est qu'il a repris la main depuis un moment. Depuis l'éviction de Silvinho, c'est lui qui a repris la main. Qu'on ne me fasse pas croire que Juninho a choisi Rudy Garcia comme entraîneur. c'est un choix 100% Jean-Michel Aulas. Et là, en fait, ce à quoi on assiste, c'est que Jean-Michel Aulas, qui devait être en retrait, reprend en main la situation, et qu'au final, la révolution qu'on nous avait annoncée, ben, c'est une révolution en demi-molle, et du coup, bah, tu sais, c'est très bien ce qui se passe, quand on a la demi-molle, ça marche jamais, hein. Non mais c'est vrai, c'est ça. Au final, en fait, le club, il est dans une situation d'instabilité chronique jusqu'à ce que ça soit, on y voit plus clair.
Non mais regarde, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Jonathan, au niveau de sur ta première analyse sur l'état d'esprit des joueurs. Au début, il est arrivé justement en essayant d'insuffler un nouvel état d'esprit aux joueurs. Et peut-être qu'il y a eu une erreur de casting à ce niveau-là justement, et qu'il n'a pas mesuré, que Juninho n'a pas mesuré l'ampleur de la tâche et de cet état d'esprit qui est pour moi n'est pas assez bon au sein de l'effectif lyonnais. Ce sont pas des gagnants les mecs, tout simplement. Ils ont pas ce mental-là. Et aujourd'hui, je trouve qu'on lui coupe vite l'herbe sous le pied et on le met vite en retrait. Alors que c'est pas en 3 mois ou en 4 mois que tu vas révolutionner un club comme l'OL.
Il s'est tiré une balle dans le pied dans le choix le plus important qu'il avait à faire. Le choix le plus important qu'il avait à faire, c'était de prendre l'entraîneur.
Et il y en a combien qui se sont plantés au niveau des choix d'entraîneur. Il y en a beaucoup.
Tu vas voir, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, s'il avait pris un entraîneur, tu vois, un nom de standing européen avec une expérience, etc., et que ça avait pas marché et qu'au final, cet entraîneur-là en question se serait fait renvoyer pareil comme Silvinho, je sais plus quand, c'était au mois d'octobre.
Au mois d'octobre,
on aurait dit bon bah voilà, il a pas la faute, a pas de chance, le mariage n'a pas fonctionné. Là, le problème d'avoir pris un entraîneur qui n'avait aucune expérience, c'est que là forcément le choix est encore plus étiqueté Juninho. C'est plus étiqueté comme le pari Juninho, et donc l'échec de Silvinho, ça le marque encore plus.
Mais aujourd'hui et aujourd'hui, je trouve qu'on remet beaucoup de choses sur le dos de Silvinho dans l'état actuel et la forme actuelle des Lyonnais, sur la préparation physique d'avant-saison par exemple, par rapport aux blessures.
Garcia, alors, mais faites c'est pas joli ce qu'il a fait encore. Hein.
Voilà, je trouve que c'est un peu déplacé de la part des dirigeants de l'OL de tout remettre sur le dos de Silvinho aussi.
C'est Rudy Garcia qui a cette déclat.
On sait que le mois de janvier, c'est pas toujours en fait la meilleure période pour faire des bonnes affaires, et on parle d'un joueur par ligne, c'est crédible.
Oui, mais là c'est la bonne année.
C'est la bonne année. Cette pour année. Lyon, ou c'est la bonne année pour faire des bonnes affaires?
Pour faire des bonnes affaires, parce qu'il y a l'euro, dans 6 mois, il y a beaucoup de joueurs qui sont en difficulté, en manque de temps de jeu, et qui vont vouloir justement trouver du temps de jeu ailleurs. Je pense que c'est le moment de trouver des coups pour faire des prêts de joueurs, ou jouer sur la corde. Bah voilà, t'as l'euro à jouer pour faire venir quelqu'un. Je pense.
T'as des noms en tête?
Bah je sais pas. Par exemple, je pense que c'est le moment ou jamais pour que Lyon fasse signer Olivier Giroud. Par exemple, tu vois, Olivier Giroud qui a besoin de temps de jeu. Voilà, qui a dit que la France était une possibilité, fais-le venir. Et je suis sûr que tu regardes, il y a plein de joueurs comme ça qui ont pas joué sur la première partie de saison, qui sont pas dans le même cas qu'Olivier Giroud, parce qu'Olivier Giroud, lui, il est en fin de contrat à la fin de l'année. Donc ça passera forcément par un transfert sec, parce que Chelsea n'a aucun intérêt à le prêter alors qu'il reste 6 mois de contrat. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui pourraient éventuellement aller se dire, je fais 6 mois en prêt à Lyon et j'aide Lyon à sauver les meubles jusqu'à la fin de la saison. Et sauver les meubles, c'est quoi? C'est quand même d'assurer une qualification européenne.
Ils sont dans une position délicate quand même, Lyon, je trouve, parce que si tu prends un joueur, c'est pour apporter une plus-value. Qui dit plus-value par rapport à ce que l'effectif actuel que tu as veut dire que forcément ça va coûter cher. Derrière, Jean-Michel Aulas,
c'est des prêts.
Ouais, mais les prêts aujourd'hui, les prêts des bons joueurs, soit t'as des prêts avec option d'achat.
Tu prends Zonzi en prêt? Moi, je le prends pour Lyon. Hein.
Ouais, mais même, enfin, ce sera peut-être mieux de l'acheter justement pour eux.
Ouais.
Mais même derrière, je crois qu'on parlait justement du latéral gauche de Reims. Pour suppléer Youssouf Koné, Camara, il me semble. Et je sais pas si c'est une plus-value.
Conan. Ouais. Conan, c'est droite ou
Ghislain Conan?
Non, le latéral gauche de Reims.
C'était Ghislain Conan, ouais.
Conan? Ouais, bah, il parlait de lui, je crois. Est-ce que c'est une vraie plus-value par rapport à Youssouf Koné?
C'est un bon joueur, mais le problème, c'est qu'il a des problèmes de dos.
Je sais pas.
Sur les ailes à Lyon, c'est quand même facile de faire une plus-value.
Ouais, mais regarde Youssouf Koné quand il était à Lille l'année dernière. Ouais. Tout le monde s'est dit, c'est bon, on a trouvé le remplaçant de Ferland Mendy. Et derrière, donc ça va coûter des sous de ramener des joueurs d'un niveau européen. Mais ensuite, faire jouer des jeunes du centre de formation, tu peux pas faire jouer 5 joueurs du centre de formation contre la Juve, c'est pas possible.
Il nous reste 30 secondes avant de faire une petite pause et de passer aux infos. Marcelo voudrait partir, Andersen, c'est une catastrophe.
Mamadou Sakho, tu lui dis, allez, t'as une chance de éventuellement jouer l'Euro si tu te fais voir sur 6 mois, c'est le moment où il faut faire un effort.
Damien?
Moi, je fais courir Jérôme Boateng pendant un mois et demi et je le rapatrie à Lyon.
Trop cher.
C'est noté. On revient dans un instant pour vous parler dans l'after. Eh bien, notamment du Paris Saint-Germain et du cas Cavani. Est-ce que c'est un cas d'école pour l'institution Paris Saint-Germain? Je vous détaillerai un petit peu le sens en creux de cette question. A tout de suite dans l'after. Il est 21h57.
RMC, 21h minuit.
L'after. Afterfoot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.